Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, le Père Noël a peur du Covid.
Les enseignes de jouets sont déjà prises d'assaut par crainte d'un reconfinement ou par crainte des magasins bondés en décembre. À suivre également la Turquie qui prend la tête d'une fronde anti-français dans les pays musulmans. Et puis Lewis Hamilton plus fort que Schumacher.
RTL Matin.
Nous sommes donc le 26 octobre et... C'est déjà Noël. Les catalogues de jouets sont là depuis quelques semaines. J'en connais qui ont déjà commencé une longue lettre au Père Noël.
Ah oui.
Et dans les magasins, les clients sont en avance cette année. Conséquence de la crise sanitaire, l'avenir est tellement incertain. Pas question de se retrouver dans 2 mois la hotte vide. C'est un reportage RTL de Valentin Boissé.
Faïsa observe les dinosaures. Puis elle prend quelques notes sur un carnet.
Je suis en train de chercher les cadeaux de Noël.
Et on est dans quel mois ?
Octobre. Oui, c'est un peu bizarre parce que d'habitude on le fait plus tard.
À côté d'elle, sa maman observe les jouets choisis par sa fille. Votre prénom ?
Keina.
Noël, c'est dans 2 mois, vous êtes venue un peu plus tôt que d'habitude là ?
Beaucoup plus tôt que d'habitude parce qu'en général, on s'y prend sur fin novembre.
Depuis cette semaine, cette maman est inquiète. Les chiffres de la Covid et les rumeurs qu'elle entend.
Si reconfinement il y a, est-ce que les magasins vont devoir fermer ? Si les choses avancent de manière pas positive, on sera prêt.
La tendance se confirme à l'échelle nationale.
On assiste en fait à un décalage. Des ventes.
Franck Mattet, porte-parole de Jouet Club, date cette hausse des ventes à la parution des catalogues au début du mois.
Au mois d'octobre, on est à plus 25% de croissance. Il y a une grosse incertitude qui pèse et parce que le Père Noël il va passer le 25 décembre, les consommateurs s'organisent en conséquence.
L'enseigne a donc décidé d'appeler ses 1000 saisonniers un mois avant d'habitude.
Ok, on part là-dessus.
Pour aider le Père Noël à être prêt, malgré tout, le 25 décembre.
Reportage RTL de Valentin Boissé. Pour l'instant, les chiffres de l'épidémie sont toujours aussi inquiétants. Nouveau record hier, plus de 52 000 nouvelles contaminations en 24 heures, 116 décès et désormais plus de 2 500 malades en réanimation. La situation est difficile, voire critique. C'est ce que vient de dire sur RTL le professeur Delfrécy, le président du conseil scientifique. On estime à 100 000 cas positifs quotidiens. Nous sommes surpris de cette brutalité depuis 10 jours, dit-il. Cette deuxième vague qui monte de jour en jour déferle sur toute l'Europe. Résultat, l'Espagne instaure un état d'urgence sanitaire jusqu'à début mai avec un couvre-feu dans tout le pays entre 23h et 6h. Nouvelle restriction également en Italie. Les cinémas, les théâtres et les salles de sport ferment à partir d'aujourd'hui pour un mois et les bars et les restaurants n'ont plus le droit de servir après 18h.
Et avec cette épidémie, quand on doit prendre des médicaments, et bien souvent on se pose des questions.
Oui, que ce soit pour un traitement occasionnel ou chronique, on peut avoir un doute. Est-ce que ça ne va pas aggraver les symptômes du Covid-19 ? Pour en avoir le cœur net, la start-up Synapse Medicine a mis en ligne un site internet. Il suffit d'entrer le nom de votre médicament et vous saurez s'il est inoffensif ou pas. Depuis mars, il y a déjà eu 900 000 connexions et il en faudrait plus, selon Clément Geurs, médecin et cofondateur de Synapse.
On a sur les presque 900 000 utilisations, 6% d'alerte de niveau rouge. On est vraiment sur des milliers et des milliers de situations à haut niveau de danger qu'on a pu potentiellement éviter. Le but de ce site, il est vraiment de pouvoir soulager les professionnels de santé qui sont extrêmement sollicités en ce moment. Les médecins traitants, les pharmaciens sont très sollicités. Et aussi, voilà, si en fait il est 2h du matin que vous n'avez pas accès à un professionnel de santé, de pouvoir vous rassurer et vous apporter un premier niveau de réponse. Mais ça ne se substitue pas à la vie d'un professionnel de santé.
Propos recueillis pour RTL par Agathe Landé. Une nouvelle conférence sociale ce matin à Matignon. Jean Castex réunit les partenaires sociaux pour évoquer les conséquences économiques de la reprise de l'épidémie. Sur la table notamment l'éventuel report de la réforme de l'assurance chômage, un sujet hautement sensible. Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier sont convoqués aujourd'hui dans les Ardennes, sur les lieux où le tueur en série aurait séquestré et tué Estelle Mouzin en 2003. Il y a 4 mois, leur maison près de Charleville-Mézières avait été fouillée, mais sans succès. Et puis, un accident spectaculaire à Bordeaux. Une voiture et un tramway se sont percutés hier matin. La conductrice de la voiture, âgée de 86 ans, est entre la vie et la mort. Et en marge de l'accident, un groupe de jeunes a profité de la confusion pour détrousser les victimes. Ils ont volé notamment la carte bancaire de la conductrice.
Il est 8h04. Plus que jamais, le torchon brûle entre la France et la Turquie.
Hier, Recep Erdogan a de nouveau mis en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron. Il lui conseille d'aller se faire soigner. Dans le même temps, plusieurs pays musulmans appellent au boycott des produits français. Et il y a eu des manifestations anti-françaises, notamment en Libye et dans la bande de Gaza. Réaction au propos du président français sur le séparatisme islamiste. Emmanuel Macron qui a tweeté en arabe et en anglais « Rien ne nous fera reculer, jamais ». Pour autant, les réactions anti-françaises restent minoritaires. C'est ce que dit Didier Billon. Il est spécialiste de la Turquie à l'Institut français des relations internationales.
Dans son discours, M. Erdogan fait monter d'un cran la tension parce que M. Erdogan considère que Macron a une haine féroce à l'égard de l'islam, une partie infiniment minoritaire, mais une partie de jeunes musulmans qui se sont agressés par les déclarations à répétition de certains dirigeants politiques français. Pour ces jeunes dont la sensibilité est à fleur de peau, on n'est pas à l'abri de répliques de ce qui s'est passé dramatiquement la semaine dernière. Nous sommes dans une difficulté très sensible qu'il faut manier avec précaution et avec résolution, sans mettre dans le même sac tous les croyants et tous les musulmans. Monsieur Erdogan profiterait encore plus d'une telle situation, mais heureusement, nous n'en sommes pas là.
Didier Billon, spécialiste de la Turquie à l'IFRI. Et à l'instant, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, appelle les entreprises à résister au chantage du boycott.
Dans un instant, la présidentielle américaine, la Cour suprême, va devenir suprêmement conservatrice. Restez avec nous.
7h, 9h30. RTL Matin.
Avec Yves Kell.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal d'Isabelle Choquet. Aux États-Unis, l'actualité du jour, c'est la confirmation de la juge Barrett à la Cour suprême.
Ouais, pas de grosse surprise à attendre. Les sénateurs devraient valider le choix de Donald Trump, le président américain qui aura donc réussi son coup, imposer une ultra-conservatrice dans la plus haute juridiction juste avant la présidentielle.
RTL, la minute américaine.
Et on rejoint Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux États-Unis. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et pourquoi est-ce si important? Pourquoi les juges pèsent-ils autant dans la présidentielle?
Eh bien, Donald Trump dit qu'à part déclencher une guerre, une nomination à la Cour suprême est la décision la plus importante que peut prendre un président. Il a renouvelé un tiers de la Cour. Il y aura ce soir 6 juges conservateurs sur 9. La juge Barrett n'a que 48 ans. Elle pourrait siéger jusqu'en 2060. Elle remplace la juge Ginsburg, morte à 87 ans. Son avis va être déterminant sur les droits de plusieurs générations d'Américains. Or, elle conteste le droit à l'avortement, le droit à l'assurance santé, le mariage des couples de même sexe, le dérèglement climatique. Mais ce n'est pas que la Cour suprême. Trump a pu nommer plus de 200 juges fédéraux. Pour beaucoup de conservateurs, c'est sa principale réussite. Ils ne veulent pas de Biden qui nommerait des juges qui pourraient par exemple durcir la législation sur les armes. D'autant que Biden est sous pression de son aile gauche qui veut qu'il augmente le nombre de juges à la Cour suprême pour la première fois depuis 150 ans.
Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux États-Unis.
Au rayon sport maintenant, Lewis Hamilton entre dans la légende de la Formule 1.
Le pilote Mercedes s'est imposé dans le Grand Prix du Portugal hier. 92e victoire de sa carrière. Il bat ainsi le record de Michael Schumacher, Frédéric Veil.
Oui, pour la 92e fois de sa carrière, Lewis Hamilton a fait retentir l'hymne britannique sur un circuit de Formule 1, une performance qui lui permet d'effacer Michael Schumacher des livres d'histoire. Schumacher avait remporté 91 Grands Prix en 19 saisons, il n'en aura fallu que 12 au pilote Mercedes. C'est dire si sa performance est en tout point remarquable. Lui qui, ne l'oublions pas, fut en 2007 et à 23 ans le plus jeune champion du monde de Formule 1, après avoir été un an plus tôt le premier pilote de couleur à courir en F1. Et cela, Hamilton ne cesse de le souligner, car il est à ce jour et toujours le seul pilote noir du circuit, qu'il s'est engagé depuis des années dans la lutte contre le racisme et qu'il a réussi l'impensable en début de saison, que les Mercedes troquent leur historique couleur argent pour une voiture toute noire. Car Hamilton est un homme influent et un champion hors norme, désormais à 5 courses d'un autre record, celui des 7 titres mondiaux de Schumacher, avant un 8e titre historique qui lui tend les bras.
Et pourquoi pas Frédéric Veil. Le foot, victoire sans appel de Lyon hier face à Monaco, 4-1 en clôture de la 8e journée de Ligue 1, avec notamment un doublé de Toko Ekambi. L'OL est désormais 6e à 2 points seulement du podium. Paris a pris la tête du classement après le nul de Lille contre Nice, un partout.
Une petite histoire du jour.
Oui, l'histoire d'un Chinois en cavale depuis une trentaine d'années. 30 années à se cacher, à enchaîner les petits boulots, à faire profil bas. Finalement, à bout de nerfs, il vient de se rendre à la police chinoise. Et là, eh ben, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait jamais été recherché. Il était convaincu d'avoir gravement blessé un homme pendant une bagarre et pas du tout. C'est triste en fait comme histoire. Hein.
Merveilleux.
Mais vous riez.
Bah oui, ça ne peut que porter à rire. C'était le journal d'Isabelle Choc.